dominer les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues, Montpellier, Calais-Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Rhin. C'est Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien à cette heure, on ne sait pas trop ce qu'on va faire finalement, puisqu'on a un plan A, avec une interview avec Jean-Michel qui est à Lille, à Roubaix exactement, ce soir, avec normalement un syndicaliste sud de La Redoute. Vous savez, La Redoute, cette entreprise de vente par correspondance, où on annonce plus de 1000 licenciements, tout au moins suppression d'emplois exactement, hein, c'est des suppressions d'emplois, mais on ne sait pas s'il va arriver à temps. Et puis on a un plan B à partir de qu'on ne peut faire fonctionner qu'à partir de 7h10, 7h15, concernant la lutte dans un hôpital psychiatrique à Caen, je crois. Voilà. Alors avant, quoi vous dire, si ce n'est que il y a une manifestation à Nantes le 22 février, donc ça a en rapport bien évidemment avec l'aéroport. Alors j'ai la première page de Courant Alternatif sous les yeux du mois de février avec l'affiche qui appelle à cette manif. Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, c'est toujours non. Donc la manif a lieu à la préfecture de Nantes à partir de 13h. Alors si vous voulez plus d'infos, eh bien allez-y, http://22février2014. blogspot.com. De toute façon, je pense que si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche 22 février 2014, ça va vous le faire. Voilà, alors comme je vous l'avais dit, il reste rapidement, le numéro de février de Courant Alternatif est sorti avec un article, deux articles concernant la Palestine, la Catalogne, mais aussi l'inspection du travail, où le rêve du MEDEF devient réalité. Il y a aussi bien d'autres articles dessus, en particulier eh bien la mobilisation des Kurdes à Paris pour les trois qui ont été assassinés il y a peu de temps. Il y a aussi des trucs de mémoire concernant la marche pour l'égalité de 1983 qu'on avait déjà évoqué à cette antenne. Et puis bien d'autres choses, en particulier la réforme de l'ANI, hein, la casse sociale généralisée à propos de l'ANI. Et puis un article sur la pauvreté en Champagne-Ardenne. Bien évidemment, on retrouve un peu l'appel. Il y a un appel anticapitaliste pour le 22 février à Nantes. Il est publié dans notre journal. Bon, voilà. Alors après, que vous dire, si ce n'est que je voulais vous parler d'une autre entreprise qu'on retrouve sur Internet, c'est Amazon. Alors Amazon, c'est une entreprise américaine au départ. Il y a un gros truc, multinational maintenant. Il y a plus de 50 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise, donc de vente par correspondance. C'est une entreprise où ça a été révélé il y a quand même quelques temps déjà, les conditions de travail des gens qui bossent là-dedans, qui sont purement horribles. Il y a eu des trucs qui ont été, des résistances qui ont été faites déjà par un certain nombre de gens en Allemagne. En France, là par contre, il y a eu un journaliste qui a voulu enquêter sur ce qui se passait dans cette entreprise. Il a compris qu'il ne pouvait pas percer ce secret de cette organisation vraiment paramilitaire, on peut dire, puisque l'encadrement, de toute façon, bien souvent, c'est des gens qui ont servi dans l'armée. Et il s'est donc fait embaucher dans cette entreprise en février 2013. Il s'est fait embaucher dans cette entreprise à Montélimar, et il a fait un bouquin qui a été publié chez Fayard, qui s'appelle En Amazonie, donc une enquête sur Amazon France, et pour découvrir justement les coulisses d'Amazon. Il était intérimaire là-dedans, en équipe de nuit d'ailleurs, pendant quelques mois. C'est un récit édifiant d'ailleurs, qui a été repris une première fois par le Nouvel Observateur, puis repris ensuite en novembre 2013, par le Monde diplomatique. Alors ensuite, que vous dire? Eh bien, depuis, la parole par rapport à cette affaire s'est un peu libérée, puisqu'il y a eu une fille qui a travaillé quelques semaines au sein de cette plateforme d'Amazon à Montélimar, qui a donc parlé au journal Libération, et qui a expliqué un petit peu ce qui se passait dans cette entreprise. Alors je vais vous citer quand même des passages. Elle dit c'est en tant que piqueuse que j'ai découvert l'univers d'Amazon, l'univers de code-barres, tout un code-barre chez Amazon. Les articles, les 350 000 emplacements sur les étagères, les chariots qui servent à déplacer les produits commandés, les gens qui poussent ces chariots, et oui, quand ils travaillent, c'est un code-barre, les imprimantes, les voitures, les scanettes portatives dont chacun est équipé pour lire les codes-barres ont aussi un code-barre. Elles sont reliées à un réseau Wi-Fi qui peut les localiser dans l'entrepôt. Tout a une réalité physique doublée d'une existence informatique. Les managers sont derrière leur ordinateur, savent en temps réel grâce à ces outils où se trouve un livre, sur quel chariot il a été enregistré, quel intérimaire pousse le chariot ou se déplace dans l'entrepôt, à quelle heure il s'est mis au travail en scannant son code-barre personnel, quelle a été la durée exacte de sa pause et combien d'articles il pique par heure. Cette productivité personnalisée est évaluée en permanence et des managers viennent trouver individuellement chaque piqueur pour lui demander sa performance et le conseiller si celle-ci n'est pas suffisante. Du style, il faut être plus dynamique, ne perds pas trop de temps en ramenant les articles à ton chariot, tu es à 85 articles par heure, m'a lancé un jour un manager au détour d'un rayon alors que je n'avais jamais vu cette personne auparavant. Aux outils de surveillance, il faut ajouter des centaines de caméras, évidemment, toutes les surveillées, des agents de sécurité qui arpentent les allées toute la journée et qui peuvent fouiller les salariés ou détecter au détecteur du métal à la sortie de l'entrepôt. Enfin, plus diffus, la peur de la délation, toujours dans ce type de problème, et le fantasme. Alors je crois que là, j'ai un coup de téléphone. Camille, si tu pouvais, je crois que le plan A est au téléphone. Est-ce que tu peux pas passer à un petit truc musical, s'il te plaît?
Qui font des chansons parlant de misère, d'ennui, de prison, ne sont que des leurs chassant nos démons, bâillonnant la peur pendant un moment. Chanter ne sait pas vivre, mais c'est l'espérer. Chanter, c'est survivre quand on est vidé, vidé de ses illusions, tout nu et tout con. Et saurait déboussoler qu'à ses piétiner. Je ne suis ni meilleur ni plus mauvais que vous. Contre vents et marées, envers et contre tout, j'ai chevillé dans le cœur un rêve de bonheur, un jour nouveau qui se lève, chasse mon chagrin. Un geste, un regard, un mot, un ami qui vient. Deux arbres dressés dans le ciel, la lune et la nuit. Deux amoureux dans un champ font comme leurs parents. Une fille qui revient d'un voyage très loin. Tous ces mots terribles qui font des chansons.
Bon, allez, je crois qu'on va passer au plombé. Donc, on va vous parler d'une lutte sur l'hôpital public de santé mentale de Caen, qui une lutte qui dure depuis juin 2013, qui n'est toujours pas finie. Mais là, c'est un enregistrement qui a été fait fin décembre, suite à l'intervention des flics sur le site, parce qu'il y avait trop de grévistes, et voilà. Donc, on vous laisse écouter cet enregistrement qui a été fait par une émission de Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour.
Voilà, alors hier, effectivement, dans l'actu, on a parlé de ce qui s'est passé un petit peu ce 19 décembre 2013, donc avec l'intervention des flics à l'hôpital de Caen. Et donc, Odile, tu es infirmière en psychiatrie à l'établissement public de santé mentale de Caen.
Oui.
Voilà, pour les présentations. Commencer par le début d'ailleurs, hein, pourquoi on en arrive là. Commencer ce qui s'est passé au mois de juin, quoi, simplement.
D'accord. Là, on a eu une semaine de grève à l'hôpital en décembre, mais cette semaine, elle fait suite à un premier plan qui avait été présenté par le directeur à l'hôpital, le PSM de Caen, qui est un établissement public qui regroupe environ 1200 salariés et où il y a 500 patients un petit peu moins qui sont hospitalisés, mais qui suit toute la population, une partie de la population du Calvados, quoi, en psychiatrie. Donc, en juin, le directeur nous annonce qu'il y a...
Donc c'est monsieur Jean-Yves Blondel, hein.
Voilà, monsieur Jean-Yves Blondel, le directeur de l'hôpital, qui est nommé depuis... il est là depuis très peu, en juin, il est là depuis janvier, je crois. Et il nous annonce un plan de redressement de l'hôpital parce qu'il manquerait 1,8 million dans les caisses de l'hôpital pour continuer à fonctionner. Bon, la réaction du personnel, c'est évidemment de dire que, voilà, ça ne nous concerne pas vraiment, cet argent qui manque, enfin, on n'a pas à se sentir concerné, d'autant plus que l'argent qui manque vient du fait que l'hôpital n'est pas assez bien doté par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, et qui sont des espèces de préfets, enfin... ou de préfecture de la santé qui distribue les budgets qui viennent des ministères, quoi. Donc le ministère de la santé ne donnant pas assez d'argent à l'ARS, elle ne peut pas en donner plus pour les hôpitaux, et c'est comme ça dans tous les hôpitaux psychiatriques de France.
Quel était à peu près le qu'est-ce qu'on octroie à peu près comme dotation justement pour l'hôpital?
De l'ordre de 170 millions, je pense, pour l'hôpital, mais là, il manquait 1,8 million, ce qui n'est pas du tout énorme, mais qui fait que, enfin, que l'hôpital n'a pas la capacité d'investir pour construire des nouveaux bâtiments qui seraient nécessaires. En fait, cet hôpital s'est toujours plutôt porté bien, mais là, il manque un peu d'argent du fait qu'on a construit des nouveaux locaux, ce qui était tout à fait nécessaire, hein, parce que c'est quand même un hôpital qui date des années 1700, donc il y a des bâtiments qui sont très vieux, dont une partie a été détruite, une autre a été redonnée pour construire des appartements ou d'autres structures comme la DRAC, par exemple, la direction de l'action culturelle de Caen. Elle est aussi dans d'anciens bâtiments de l'EPSM.
D'accord.
Voilà, donc le budget qui manque, c'est parce qu'on a construit des nouveaux logements et que du coup, il y a des emprunts qui sont à rembourser et qui font que, effectivement, il y a moins d'argent pour faire fonctionner l'hôpital.
Est-ce que, comme on l'a vu dans certains autres hôpitaux, est-ce que il y a une... je ne retrouve plus le terme. Est-ce qu'il y a un endettement de l'hôpital, par exemple, avec des emprunts toxiques et des choses comme ça?
Enfin, des emprunts toxiques, non. Ce que je te disais, justement, c'est que l'hôpital avait plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant et que c'était depuis la construction d'un nouveau bâtiment, là, qui a obligé à des emprunts, mais qui ne sont pas des emprunts toxiques, qui a obligé à des emprunts pour construire effectivement ce bâtiment, mais bon, qui sont prévus, quoi. Enfin, ça fait partie des choses obligatoires dans les services de santé d'avoir des nouveaux bâtiments à un moment donné quand les autres sont trop vétustes. Ça, c'était prévu. Et la deuxième partie du déficit, elle vient aussi du fait que dans les hôpitaux, il y a eu une partie des infirmiers, par exemple, qui sont passés de catégorie B à catégorie A, qui peut correspondre à une espèce de catégorie cadre. Depuis que les études d'infirmières sont reconnues comme Bac plus 3, qui a fait une petite augmentation pour ce personnel, qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas compensée complètement par la dotation de l'ARS. Donc il y a une partie de ces augmentations de salaire qui est prise sur le budget propre de l'hôpital, quoi. Alors que ça devrait compenser, puisque c'est décidé au niveau national.
Alors, dans le courrier qu'il vous envoie ce 11 juin 2013, donc M. Blondel dit qu'il y a en 2012 un déficit affiché de 400 000 euros. Comment ce chiffre arrive là, comme ça?
Déficit de 400 000 euros. Je ne sais pas c'est quoi le déficit. Moi, j'ai plutôt en tête un déficit de 1,8 million d'euros.
Oui, hein.
Mais le chiffre qui arrive, c'est... Bon, si je dis ce chiffre, il est dû principalement au fait qu'il y a moins de dotations et que tout le matériel dont on a besoin. Alors, à l'hôpital, ce qui coûte le plus cher à l'hôpital, surtout en psychiatrie, hein, c'est le personnel. Ça fait environ 85% de la masse enfin des dépenses de l'hôpital, c'est pour payer le personnel. Mmh. Parce que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de choses comme ça qui coûtent cher. Il y a surtout un personnel qui travaille auprès des patients et qui écoute leurs souffrances et qui les aide au quotidien. Il y a bon. Mmh. Et à l'hôpital quand on joue, quand on pense diminuer le déficit comme il l'a voulu le faire, eh ben effectivement, l'idée c'est de diminuer le nombre de personnels qui travaillent dans cet hôpital pour faire les mêmes soins, quoi.
Et attaquer aussi, puisque la seconde proposition, c'est la suppression de la quatrième semaine d'RTT.
Oui, voilà. Donc, dans notre hôpital, au moment du passage aux 35 heures, la loi Aubry, il y a eu un accord qu'on avait négocié, pareil, bec et ongle, en ayant le maximum de RTT possible. C'est-à-dire que dans notre hôpital, on a eu 20 jours de RTT, ce qui est assez important. Puisque d'autres hôpitaux n'ont eu 15, enfin bon, mais ça veut dire pour avoir des RTT, ce qui génère des RTT, c'est le fait de travailler plus de 35 heures. Dans notre hôpital, on travaille 38h20 ou 38h40, je ne sais plus. Et ça fait qu'on a 20 jours de RTT qui sont des récupérations de son travail, en fait. Et donc cet accord, il a été signé dans notre hôpital en 2002. Et donc le directeur le dénonce. Donc il avait été signé à l'époque que par la CFDT, parce qu'après une grosse bataille où là aussi il y avait eu des grèves et tout ça, il y a trois syndicats à l'hôpital, hein. Il y a Sud, CGT et CFDT. La CFDT l'avait signé seule parce que Sud et la CGT trouvaient que il n'y avait pas suffisamment de postes pour remplacer le fait qu'il y ait une diminution du temps de travail. Il y aurait eu besoin de 120 salariés embauchés et il y en a eu, je sais pas, enfin sur 3 ans, il y a dû y en avoir à peine la moitié, une soixantaine, quoi. Et donc seule la CFDT avait signé cet accord.
D'accord.
Voilà, donc cet accord, il est dénoncé par le directeur en juin, et c'est ce qui provoque les premières réunions en juin. Donc les AG de salariés pour dire ben nous on veut pas de cette suppression de jours de RTT.
Est-ce que c'est sur le premier point ou sur ce point-là que ça a plus focalisé, ou sur l'ensemble au niveau des réflexions qui se sont faites?
Ben, en fait c'est un tout, quoi. C'était l'idée de dire mais c'est pas à nous de payer ce déficit. Que le personnel refusait d'être une variable d'ajustement pour faire des économies, pour faire de futur. Enfin, voilà. En gros, on nous disait il faut que vous fassiez des sacrifices pour que l'hôpital ait des fonds pour pouvoir investir dans des nouveaux locaux. Nous, on trouve que c'est pas à nous de payer notre outil de travail ni les locaux, et il n'y a aucune raison que ce soit à nous. Après, les autres mesures qu'il envisageait, c'était aussi on a une demi-heure de repas qui est prévue dans le temps de travail. Il voulait aussi enlever cette demi-heure de repas au moins, enfin peut-être pas dans les services de soins, mais au moins dans les autres services, quoi.
Vraiment, il voulait ratisser sur tous les fronts, quoi.
Oui, sur le côté social et aussi sur l'offre de soins, parce que sur l'offre de soins, par exemple, l'hôpital, donc je te dis, il y a 500 patients qui sont hospitalisés, mais il y en a plus du double qui sont suivis à l'extérieur, c'est-à-dire qui vont dans des centres de consultation médicales spécialisées, enfin des CMP. Il y en a d'autres qui viennent en hôpital de jour ou en CATTP, donc en centre d'accueil à temps partiel. Et tout, enfin, l'idée c'était de regrouper aussi plusieurs CMP, alors que au départ la politique de secteur de la psychiatrie, c'était de mettre la psychiatrie au plus près des gens, c'est-à-dire dans les quartiers, il y avait des CMP, il y avait des hôpitaux de jour. Donc là, si on les regroupe sur Caen, ça veut dire qu'ils seront plus au plus près de la population.
Petite parenthèse, comment la psychiatrie dans les quartiers, elle est faite, elle est reçue justement? Parce que nous, on a toujours l'image parfois de la psychiatrie, c'est-à-dire on isole les gens, on les met dans des sortes de camisoles chimiques. Comment est pratiquée par chez vous la psychiatrie?
Dans les quartiers comme elle est pratiquée, c'est surtout des centres de consultation. Donc c'est des patients qui ont besoin de soins ou des usagers de la psychiatrie, comme on peut les appeler, qui se rendent à des consultations, soit avec des psychiatres, soit avec des psychologues, soit avec des infirmiers, où ils peuvent parler de leurs difficultés, être aidés. Mmh. Et après, dans les hôpitaux de jour, c'est aussi des endroits où ils peuvent, pareil, venir parler de leurs difficultés. Et il y a aussi un repas qui se passe là. Enfin, c'est une façon d'être soigné sans être hospitalisé à temps plein, et en réservant plutôt la période d'hospitalisation au moment de crise, quoi.
Oui, vraiment. Donc, c'est quand même la priorité, c'est plus la parole et l'écoute et l'échange.
Oui. Enfin bon, après en psychiatrie, il y a différents, y a différentes façons de soigner. Et tout le monde n'est pas d'accord. Il y a de moins en moins de psychanalyse et de choses comme ça. Et il y a plus en plus de comportementalistes, quoi, apprendre aux gens à gérer leur maladie. Bon, il y a plusieurs écoles là. Ce serait un peu compliqué de rentrer dans tout ce débat, mais effectivement, il y a plusieurs écoles.
Mais c'est important aussi, hein, parce que c'est vrai que on sent bien aussi qu'il y a de plus en plus un grand mal-être dans les sociétés où on vit, parce qu'effectivement, difficultés économiques, sociales et autres, et parfois effectivement on a tendance à être très très mal, et parfois les solutions qui sont amenées, c'est prenez des médicaments, prenez des anxiolytiques, dormez tranquille et tout ira mieux, quoi, en gros.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça qui existe, hein, mais enfin, moi, je suis soignante. J'ai pas du tout cette vision-là de la psychiatrie. Moi, si j'arrive à faire ce métier-là, c'est parce que j'ai l'impression qu'on apporte réellement. Et je veux dire, les gens nous le disent. Alors bon, il y a évidemment tout un courant de gens qui sont contre le fait qu'il y ait des soignants, des hospitalisations et tout ça. Mais enfin, bon. On pourrait citer la revue Sans Remède qui effectivement parle de ça, parle du fait qu'il n'y a pas besoin de tout ce système. Mais la plupart des gens qu'on rencontre nous disent quand même que, à condition d'être écoutés et entendus sur ce qu'ils ont à dire, ils veulent bien recevoir des soins, voilà, qui sont pas uniquement autour des médicaments, mais qui peuvent être autour d'écoute et d'aide au quotidien.
Ouais. Le PSM, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, accueille combien de patients?
En hospitalisation, il y a entre 400 et 500 lits d'accueil, mais c'est pas l'essentiel de notre travail.
Bien sûr.
Puisqu'il y en a autant, il y a beaucoup plus de personnes qui sont suivies à l'extérieur qu'en hospitalisation. Voilà, donc pour revenir un peu sur le mouvement de juin, parce que... Voilà.
Tout à fait, on revient sur le mouvement de juin.
On est parti un peu loin, donc en juin, il y a eu une très grosse mobilisation, donc du coup, contre les mesures que voulait faire appliquer ce directeur, M. Blondel. Et donc, il y a eu une première assemblée générale du personnel, où il y avait 500 personnes, qui est énorme. Enfin, on est 1200 avec les médecins, mais 500 personnes, ça veut dire que, comme dans les hôpitaux, quand il y a une grève, les gens ils continuent à travailler, ils continuent à assurer un minimum, quoi. Ça veut dire que il y avait plein de gens qui étaient revenus sur leurs jours de congé, enfin plein de choses comme ça, pour qu'on soit 500.
C'est presque la moitié, quoi, quelque chose près. C'est presque la moitié du personnel, donc c'est pas rien, quoi.
Oui, c'est presque la moitié, en comptant que à l'hôpital il y a des gens qui travaillent la nuit. Enfin oui, et les médecins n'étaient pas concernés au départ, puisque ils n'étaient pas du tout menacés par ce plan de la direction. Hein. Ça menaçait que vraiment le petit personnel et la plupart des soignants et du personnel, mais pas les cadres par exemple, pas les médecins, pas la direction évidemment. Voilà. Donc on a mené une semaine de lutte, enfin avec surtout un temps fort à partir du 17 juin où on a bloqué les portes de l'hôpital et on a empêché les admissions. Alors empêcher les admissions, ça veut dire qu'on empêche de nouvelles hospitalisations, mais on n'empêche pas évidemment les gens de venir travailler, on n'empêche pas les patients qui étaient hospitalisés d'aller venir comme ils voulaient, on empêchait juste qu'il y ait des nouvelles admissions.
Mmh.
Voilà. Et donc à la fin de, après différentes péripéties, à la fin de ces trois jours d'occupation, le directeur a fini par enlever son plan parce que il a été lâché par tout le monde. C'est-à-dire qu'il essayait de, enfin à l'époque il présentait un plan qui attaquait de partout. Je veux dire, il voulait à l'hôpital, on a à l'intérieur de l'hôpital même, on a une blanchisserie. On a une cuisine qui fait à manger pour les patients, mais aussi pour le personnel.
Oui, tout est fait en interne, quoi.
Pas tout, mais ça, en tout cas.
Moi, ouais, la cuisine, quand j'ai la cuisine, ça s'est fait en interne.
Voilà, il y a aussi tout un service, des services techniques qui interviennent. Il y a des électriciens, il y a des chauffagistes, il y a des jardiniers. Enfin, voilà, toutes ces catégories de personnel sont pas directement dans le soin, mais font partie de l'hôpital et contribue aussi au fait que l'hôpital soit ce qu'il est, c'est-à-dire une qualité de repas, suffisamment de linge, enfin, etc. Tous les hôpitaux qui ont externalisé toutes ces choses qui ne sont pas directement du soin se retrouvent souvent dans des grandes difficultés. Par exemple, par rapport au linge qu'ils ont régulièrement, il leur manque, enfin, voilà. Mmh. Toutes ces sortes de choses. Donc lui, le directeur, et on a aussi un laboratoire, une pharmacie, etc. Le directeur, il parlait de fermer un certain nombre de ces services un peu qui sont pas directement dans le soin, quoi. Donc la blanchisserie, la cuisine, éventuellement le laboratoire, et donc les gens se sont sentis très concernés, tous les secteurs. Et finalement, au bout du deuxième jour d'occupation, mais du cinquième jour, de sixième jour de mobilisation, il a dit que il allait revoir son plan, et donc il a lâché, enfin nous on disait dans notre acte qu'il lâche tout, parce que aussi les cadres ont commencé à refuser de donner les noms des grévistes en disant qu'ils s'associent au mouvement, et les médecins qui n'étaient pas directement concernés par les mesures ont dit que au directeur que c'était plus possible de travailler dans ces conditions puisque il y avait eux ils déploraient un manque de graduation, de concertation et de dialogue, et ils menaçaient de, s'il n'y avait pas une résolution rapide du conflit, il menaçait de rupture avec la gouvernance actuelle, c'est-à-dire qu'il voulait plus travailler avec ce directeur, en gros.
D'accord. Donc effectivement, là, il y a vraiment un point de rupture assez important. Et c'est vrai que, du coup, ce qui est intéressant dans ça aussi, c'est que tout le monde s'y est joint et on n'a pas laissé, comme tu disais tout à l'heure, le petit personnel, entre guillemets, se débrouiller avec tout ça, et que tout le monde, enfin, la plupart des gens participent à la lutte à l'intérieur, quoi.
Oui, ben c'est ça. Il y a eu une réelle dynamique et ça concernait tous les services, et, bon, y compris les médecins, voilà, qui sont associés. Donc, après cette période en juin où il a retiré son plan et où il y a eu un protocole de fin de conflit qui a été signé avec les organisations syndicales, dans ce protocole de fin de conflit, c'était également notifié que reprendraient après les vacances d'été donc des réunions de concertation entre syndicats, médecins et direction, ce qui était la demande du personnel éventuellement pour voir s'il y avait un réel déficit et s'il y avait des moyens de enfin bon, même si sinon on pense que c'est pas à nous à trouver des solutions pour qu'il y ait plus d'argent à l'hôpital, mais bon, voilà, il y avait certains syndicats qui étaient un peu sur cette position-là, de dire bon bah on va discuter de qu'est-ce qu'on peut faire comme économie pour l'hôpital.
Alors, ce que je te propose, on va faire une petite pause musicale.
Oui.
Tu ne quittes pas et on continue tout de suite après.
D'accord.
Retirez votre camp avant la chandeleur, retirez mauvaise humeur. Monsieur le directeur, votre camp va finir au saniboyeur RTT. Ils sont à nous, les travailleurs, pour nous c'est non, 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 non. Salir depuis le mois de juin, on a prévu qu'on lâcherait rien. Retirez votre plan avant la chandeleur, démission, allez-vous-en, monsieur le directeur, au piqué, on peut rester des heures, l'austérité n'a pas sa place dans la santé, pour nous c'est non, 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 non.
Et voilà, donc là, on vient d'entendre une chanson donc qui est en soutien à l'établissement public de santé mentale de Caen. Et donc, on est toujours avec Odile, qui est infirmière en psychiatrie. Voilà, c'était donc une chanson qui a été faite récemment, je crois.
Oui, oui, oui. Elle vient, enfin, moi, j'ai pas YouTube, mais visiblement, elle doit circuler sur YouTube, enfin, sur les réseaux sociaux en général. Et, ouais. Et elle est aussi, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est quelqu'un de l'hôpital qui chante, quoi.
Qui a pris sa gratte et puis, voilà. Puis qui s'y est mis, quoi.
Qui s'y est mis et qui fait partie, effectivement, de la mobilisation.
Alors, donc, avant cette pause, donc, on parlait un peu de ce qui s'est passé au mois de juin. Donc, le mois de juin se passe. Comment la lutte après se met en place, amplifie? Qu'est-ce qui se passe par la suite, juste pour arriver jusqu'à aujourd'hui?
Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que, donc, suite au protocole d'accord qu'on avait signé, donc, on s'est mis en place à partir de... Alors, on n'a pas eu du tout de nouvelles du directeur en septembre, comme s'il n'y avait pas eu de conflit, enfin...
Les vacances sont passées, donc les gens sont relaxés, donc c'est bon.
Oui, enfin bon, on s'attendait quand même bien à avoir des coups bas, mais il ne se manifestait pas beaucoup, d'autant plus qu'on avait dit qu'on reprenait des réunions. Parce que nous, par rapport à l'offre de soins qu'on offre à la population, on tenait à ce que les médecins soient aussi partie prenante de toutes ces réunions. Mmh. Et donc, on s'attendait à ce que dès septembre, il y ait des réunions. En fait, ça a commencé un peu plus tard que ça. Mmh. En octobre, il y a eu des premières réunions. On a étudié les comptes de l'hôpital. Donc, pour les organisations syndicales, c'était assez intéressant, puisqu'on n'a jamais les comptes de l'hôpital. On nous dit toujours... En fait, dans les commissions, ce qu'on appelle les commissions paritaires, c'est-à-dire où le personnel est représenté à travers ses syndicats, à travers ses élus, quoi. Donc, à travers les organisations syndicales, normalement, on doit approuver les comptes. On les approuve ou on les approuve pas, en fait, ils s'en moquent. Ce qui intéresse les directions, c'est de les présenter.
Ils doivent les publier, quoi.
Voilà. Ils doivent les présenter et dire elle a été présentée au CTE, qui est le comité technique d'établissement, qui est un comité tripartite, où il y a à la fois des représentants du personnel, des représentants de la CME, donc de la commission médicale d'établissement, et des représentants de la direction. Et nous, on a attendu, il n'y avait pas ni CTE, donc comité technique d'établissement, ni CME, ni CHSCT qui étaient programmés.
Alors, tu me rappelles ce que c'est le CHSCT?
C'est le comité hygiène et sécurité conditions de travail. C'est donc tout ce qui... qui veillent aux bonnes conditions de travail dans l'établissement, quoi, ouais. De voir qu'il n'y ait pas de problème pour la santé des salariés, enfin, etc. Donc, on a eu un été qui n'a pas été si calme que ça, hein, parce qu'il n'y avait quand même pas grand monde dans les services. Et puis, il y a eu des intempéries à Caen, il y a eu des grosses pluies avec des inondations, etc. Il y a un bâtiment qui a été inondé, donc il y a eu plusieurs CHSCT, comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, qui se sont réunis pour voir dans quelles conditions le personnel a travaillé. Et là... C'est vrai que le personnel a fait preuve plutôt de bonne volonté, puisque les gens sont revenus travailler, aider à éponger. Enfin, il y avait 10 cm d'eau dans les services sur le bâtiment le plus neuf de l'établissement, en plus, ce qui était quand même très embêtant, quoi. Et donc, le personnel a travaillé malgré les mauvaises conditions de travail, je dirais, et les intempéries. Ouais. Et donc, en septembre, bon, toujours pas de nouvelles du directeur. Et en octobre, on commence à étudier les comptes de l'établissement. Et là, en étudiant avec donc, des personnes de la direction qui nous ont donné un peu toutes les dépenses de l'établissement et tout ça... On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de dépenses à considérer, quoi. Que si l'établissement était en déficit, ce qu'on savait déjà, hein, c'était uniquement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de dotation, parce que le prix de l'énergie augmente, qu'il faut... comme on travaille beaucoup à l'extérieur, on a beaucoup de voitures sur les routes, et donc le prix du gasoil et de l'essence augmentant, bah, évidemment ça coûte plus cher, enfin toutes ces choses-là, le prix du chauffage aussi, et par contre il n'y a pas eu des dépenses, enfin à part ces dépenses pour construire ce nouveau service, il n'y a pas eu des dépenses
à considérer, quoi.
Voilà, donc ces réunions ont duré la fin octobre, et au mois de novembre, donc, il y a eu plusieurs groupes de travail qui sont réunis pour voir où les directions nous présentaient, discuter avec les organisations syndicales et les médecins des possibilités de faire des économies, que ce soit revoir un peu toutes les mêmes choses, quoi. Et après toutes les mêmes choses, c'est-à-dire toutes les possibilités de dépenser moins d'argent ou d'en gagner, etc. Ces réunions sont finies fin novembre, et la conclusion de ces réunions, ça a été une réunion tripartite, donc à nouveau organisation syndicale, médecin et direction, où le directeur a voulu représenter un plan qui était quasiment le même que celui de juin.
En couleur, quoi.
Voilà, le même en couleur, à part quelques petites choses qui étaient différentes, c'est-à-dire il parlait plus de la demi-heure de repas qui était pris sur le temps de travail, donc à enlever, et il parlait plus de fermeture de services comme la blanchisserie, le laboratoire, voilà. Mais par contre, il présentait des nouvelles choses, le regroupement des CMP dont on avait déjà parlé, le regroupement des centres de consultation à l'extérieur, de changer la façon de travailler, par exemple, il prévoyait de faire dans certains services, alors pas les services de soins toujours, mais plutôt les services techniques, de proposer au personnel de faire 35 heures en 4 jours, c'est-à-dire travailler 3 fois 9 heures, une fois 8 heures, quelque chose comme ça. Et du coup, ces gens-là auraient plus du tout de RTT, ils feraient leurs 35 heures en 4 jours, et ce qui convient pas, enfin... Pour nous, c'est un peu une façon d'aller vers les 12 heures, ce qui se pratique dans les hôpitaux, et qui est une façon aussi de diminuer le nombre de personnel, quoi.
Et puis d'essorer les gens, quoi, parce que bon, voilà, quoi, c'est un coup sur la santé aussi, quoi. Hein.
Forcément, ouais. Et donc, il prévoyait à nouveau de diminuer de 5 RTT. Alors, diminuer de 5 RTT, ça veut surtout dire que ça supprime 20 postes dans l'hôpital, hein. D'accord. C'est-à-dire que si on travaille 5 jours de plus tous, il y a 20 personnes en moins qui seront embauchées.
D'accord.
Alors, c'était pas des licenciements secs qui étaient prévus, mais c'était quand même qu'on remplace pas les gens qui partent en retraite, etc. Donc, pour nous,
c'est faire plus avec moins, quoi.
Voilà. C'est aussi une façon de diminuer l'offre de soins, enfin. Voilà, il prévoyait aussi, par exemple, dans des services de non-séjour, donc pas les services où les gens arrivent en hospitalisation, en entrée, mais pour les patients qui sont dont personne ne veut, hein, c'est clair, les hôpitaux. Il y a certains patients qui sont hospitalisés depuis des années et qui peuvent pas vivre à l'extérieur et qui se retrouvent à l'hôpital dans des services qu'on appelle des services de long séjour. Il prévoyait, par exemple, dans ces services-là, de diminuer aussi la qualité des soins, puisque de diminuer le nombre d'infirmiers et d'infirmières et de les remplacer plutôt par des aides-soignantes, donc des gens avec une qualification moindre, même s'ils connaissent aussi leur travail. Mais je veux dire, c'est diminuer d'une certaine façon le personnel qualifié qu'on a à disposition de ces patients, quoi.
Ouais. Donc voilà, on arrive un petit peu à ce qui s'est passé un peu si on n'a rien oublié ces derniers jours.
Oui.
Alors donc jeudi dernier, donc du coup c'est les flics donc qui rentrent dans l'hôpital.
Alors avant que les flics arrivent. Donc nous on avait décidé donc en décembre de faire les assemblées générales ont commencé je sais plus le 13 décembre ou quelque chose comme ça, donc on avait décidé de faire une semaine de mobilisation. Non, la première assemblée générale elle a eu lieu le 10 décembre, mais on avait décidé de faire une semaine noire à l'hôpital, comme on l'a appelé, à partir du 17. Parce que c'était une semaine où il y avait toutes les instances de l'hôpital qui devaient se réunir et où le directeur devait présenter son plan. Mmh. Donc notre but, c'était qu'il puisse pas le présenter devant le CTE. Le CTE, c'est le comité technique d'établissement, et parce que il avait une demande de l'ARS, donc de l'Agence régionale de santé, de présenter ce plan de redressement avant le 31 décembre 2013. Et pour pas lui permettre de présenter ce plan, on a bloqué toutes les instances. Donc on a bloqué le comité technique d'établissement le mardi 17. Ensuite, le soir même, on a empêché le directoire qui est qui est une des directions de l'hôpital où il y a à la fois les médecins chefs de service et la direction et un représentant du personnel qui est élu. Et ensuite le jeudi matin on a bloqué le CHSCT, donc le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, toujours pour empêcher à la direction de présenter son plan à ses instances. Et le soir, donc on a occupé chaque jour, sauf le mercredi, on a commencé le mardi, le jeudi et le vendredi, on avait prévu de bloquer à partir de 7h du matin, d'empêcher les admissions et de tenir jusqu'au soir, voire un peu plus. Donc quand on a vu que mardi rien ne se débloquait du côté de la direction, on a occupé le bureau du directeur. Voilà. Donc ce qu'il faut dire quand même par rapport à la situation de juin, c'est que la CFDT qui était dans la lutte au départ, là a quitté les rangs de la lutte pour aller négocier directement avec la direction et
décidément
pour aller négocier des cacahuètes, quoi, parce que en fait ils étaient prêts à accepter, alors qu'ils l'avaient dénoncé en juin, la perte de ses 20 emplois et des 5 RTT, en échange de quoi ils ont signé un espèce de, enfin on ne sait pas s'il était signé, mais on l'a vu sur le bureau du directeur quand on a occupé son bureau, en échange de l'emploi des contractuels, mais qui étaient déjà à l'hôpital, ce avec quoi on est d'accord, hein, je veux dire, tous les syndicats sont d'accord avec ça, qu'on embauche les contractuels qui travaillent à l'hôpital, dont certains travaillent depuis 2 ans, voire plus, quoi. Mmh. Et ils ont négocié ça, alors que de toute façon, il y a des directives au niveau de la santé pour que les contractuels soient embauchés. Donc, autant dire que c'était vraiment des caca- les miettes de pain qu'ils ont négociées, voilà. Mais bon, ils se vantaient de ça, que la lutte, ça servait à rien, et que de toute façon, il fallait bien être réaliste, et qu'il y avait besoin de faire des économies, enfin voilà. Tout ce qu'on refusait, quoi.
Ouais, oui.
La majorité des gens refusaient, mais ce en quoi ils étaient quand même... enfin, le reste du personnel leur disait... Bah non, on n'est pas d'accord avec ça, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas les trois organisations syndicales et qu'il n'y en ait plus que deux, ça pose comme un problème à un certain nombre de gens, parce que mmh. ils ont quand même des syndiqués, quoi.
Bien sûr.
Et donc, jeudi matin, on a occupé, le directeur est venu nous voir en nous disant « Vous maintenez la grève, enfin, voilà. Je vais agir en conséquence. » Donc on en a conclu qu'il allait appeler les flics, et de fait il a appelé les flics, surtout parce que visiblement, comme nous on bloquait toutes les entrées, toutes les hospitalisations, les hospitalisations chez nous, elles passent par les urgences du CHU. Donc au CHU, il y avait plein de monde, visiblement, ils étaient complètement débordés, comme c'est partout dans tous les hôpitaux. Et donc, le médecin psychiatre qui s'occupe des urgences là-bas a commencé à faire pression sur le directeur. Bon, on sait que ça, c'est, qu'il y a eu des choses comme ça qui sont passées, mais c'est quand même, en tout cas, si les flics sont arrivés, c'est parce que soit le directeur, soit l'ARS, l'a demandé, quoi. C'était pas possible sans son accord à lui. Donc la police, en fait, elle est intervenue pour faire rentrer deux ambulances à l'hôpital. Donc deux entrées.
On voit d'ailleurs sur une photo, effectivement, où on voit effectivement le camion qui rentre, et tout autour une brassée de képi bleu, etc.
Ouais. Ils étaient en képi, hein. Je vois quelle photo.
Oui, oui.
Ils étaient en képi, c'est-à-dire qu'ils avaient leur casque à côté d'eux, mais ils n'avaient pas... ils les avaient sur eux, mais ils ne les avaient pas sur leur tête, quoi. Donc on a su vers 18h à peu près qu'il y avait 5 camions de police. Alors c'est la police nationale, c'est pas les CRS, hein, qui étaient dans la rue à côté de l'entrée du CHS, enfin de l'EPSM. Donc là on a fermé les portes symboliquement, enfin pas symboliquement, on a quand même mis une chaîne avec un cadenas, bon, qu'on savait qu'ils pourraient couper facilement, ce qu'ils ont fait très facilement, et on a appelé des gens de l'extérieur à venir nous soutenir. Donc là il y a eu pas mal de monde, on était... Quand c'est arrivé, on était peut-être une petite centaine, je dirais, à l'intérieur. Donc on s'est enfermé, on a fermé les portes et on a appelé aussi les gens du service en leur disant qu'il faut venir. Donc on s'est retrouvé, je pense, à peu près à 150 au moment où la police est intervenue, a coupé les chaînes et a ouvert les portes. D'ailleurs en cassant le portail, hein, puisqu'ils l'ont ouvert à l'envers. Donc, ils ont cassé ce portail. Au moment où on parle de faire des économies, je trouve que ça tombe bien, parce que il y en a au moins pour 3000 euros, hein, juste pour leur intervention.
Oh, mais Monsieur Blondel payera ça.
Oh, ben, il a les moyens. Donc voilà, ils sont intervenus, alors ça s'est fait relativement sans violence, c'est-à-dire que nous on n'était pas non plus décidés à aller se battre avec la police, hein, on a fait des chaînes, on a refusé de reculer.
Ouais, vous avez essayé de résister, quoi.
Voilà, on a résisté le plus qu'on a pu, ils nous ont poussé, et ils nous ont fait avancer jusqu'à, l'entrée de l'hôpital, ça fait une espèce d'allée jusqu'à la fin de l'allée, et là ils ont pu faire rentrer leurs deux ambulances. Mais le truc le plus rigolo, c'est qu'ils ont fait rentrer ces deux ambulances, mais il n'y avait pas de place à l'hôpital. Ils sont pas, derrière les gens qui auraient dû s'occuper de ça, c'est-à-dire l'administrateur de garde qui était Monsieur Blondel, de savoir où il y avait des lits à l'hôpital, parce que c'est bien beau de faire rentrer des ambulances, après il faut les diriger vers les services.
Bah ouais.
Et ils sont pas du tout occupés, et le truc, enfin rigolo si on peut dire, parce que j'imagine que c'était pas rigolo pour le patient qui était hospitalisé, c'est que la deuxième ambulance, ben le patient il est resté dans l'ambulance pendant très longtemps, parce que ils avaient pas vérifié, enfin c'était vraiment un coup de force, quoi. Ils avaient pas vérifié qu'il y avait un lit pour ce patient. D'accord. Donc ils ont fini par lui en trouver un, mais ça a duré au moins une heure, quoi. Et c'est les gens qui étaient là qu'on cherchait un lit, finalement, puisque les responsables de l'hôpital se sont pas occupés de ça, quoi.
Alors là, on va arriver un petit peu au fin de notre échange. La suite, parce que là, vous avez pour l'instant arrêté jusqu'à la fin de l'année, mais c'est pas fini.
Non, c'est pas fini. Donc, quand même, jeudi, cette intervention de la police a fait réagir très fortement dans l'hôpital. Hein. C'est-à-dire que le vendredi matin, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qui est venu. Il y a y compris des gens qu'on sait proches de la CFDT qui sont venus à l'Assemblée générale du vendredi après-midi. Il y a la CME, donc les représentants de la comité médicale de l'hôpital, qui était pas, qui disait faut faire des économies, voilà, qui s'était rangé aux arguments de la direction de la CFDT pour dire qu'il fallait faire des économies, qui ont finalement été voir le directeur. Ils étaient 18 à se réunir alors que nous on leur demandait de se réunir depuis le début des conflits et qu'ils trouvaient pas le temps. En fait, le lendemain de l'intervention de la police, ils ont réussi à se réunir et à dire qu'ils pouvaient pas accepter enfin que le directeur ne cède pas et donc qu'ils demandaient le retrait du plan pour l'instant. Voilà, donc vendredi, on a décidé de suspendre la grève, en sachant que le directeur n'a pas retiré son plan. Hein. Lui, il dit qu'il peut pas le retirer puisqu'il l'a pas présenté devant les instances, mais bon, il est toujours là comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, et nous, on cédera pas. Donc là, on a arrêté. Bon, je pense que le rapport de force, il est en notre faveur pour l'instant. On peut dire qu'on a gagné quand même puisque on a fait céder le directeur jusqu'à maintenant. Et bon, après, on ne sait pas du tout ce qui va nous ressortir en janvier, mais.
Mais vous êtes toujours mobilisé de toute façon.
Voilà, on est toujours mobilisé. On pense qu'il va nous ressortir le même plan. Quoi.
Ouais. Ben voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que. Mais ce qui serait bien, c'est effectivement qu'on revienne sur la suite de la lutte. Hein, de toute façon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on reste en contact et puis qu'on début janvier ou mi-janvier, on fait un point.
Voilà. Bon, effectivement, on reste en contact puisque la copine Odile, on la connaît très bien aussi. Donc, pour l'instant. Ils sont toujours mobilisés, mais il n'y a rien de précis. Donc dès que ça se passera, on pourra l'interviewer. Et puis, bon, tout à l'heure, elle parlait des contractuels. Alors, dans les hôpitaux, maintenant, il y a de plus en plus de contractuels. Mais alors, quand on entend contractuel dans le privé, en général, c'est des gens qui ont des CDD. Dans le public, on peut être contractuel en CDD ou en CDI, puisque il y a un texte qui est, hein, ça fait partie de la fonction publique territoriale. Alors, la différence entre un contractuel, même en CDI, et quelqu'un qui est titulaire de son poste, c'est qu'il n'y a pas le même salaire et il n'y a pas la même retraite à la fin.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. Logique de la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.